Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous êtes bien sur la radio Inzamba à Gate Kakawe. Merci pour votre fidélité. C'est l'heure du journal en français, dont voici d'abord la charpente. Le monde entier célèbre ce 12 juin la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Au Burundi, l'Observatoire national contre la criminalité transfrontalière, où est ton frère, constate que le chemin est encore très long pour que ce phénomène soit éradiqué. Et puis les militaires se lamentent contre une nouvelle taxe dite professionnelle, on verra le point dans ce journal. Dans ce journal également, les agents de sécurité tanzaniennes ont détruit les champs de bananes des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu. L'association OCBDH Vicar tire à la violation des droits des réfugiés. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans ce journal. Le 12 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale contre le travail des enfants. C'est au moment où les enfants mineurs exploités dans des différents travaux se remarquent au chef-lieu de la province de Lomongué. Certains enfants disent avoir été envoyés par leurs parents pour faire vivre leur famille. D'autres expliquent qu'ils ont manqué de moyens pour continuer à étudier. On fait le point avec Alain Majesté Valenga.
Certains de ces enfants vendent des jus de toutes sortes, d'autres vendent des fruits dont les bananes mûres, des pastèques et ananas, des produits de la boulangerie et d'autres produits vendus dans ce commerce ambulant. Dans la ville d'Omongué, ces enfants se font observer aux entrées du marché central, où ils profitent de la sortie de ces personnes qui achètent les produits. Ces enfants expliquent qu'ils proviennent des provinces de Ururi, Makamba, Kutana, Kayanza et Ngozi, et d'autres provinces. Il y en a ceux qui proviennent des communes de la province d'Omongué. Certains témoignent qu'ils ont été envoyés dans ces genres de commerce par leurs parents, suite à la pauvreté qui sévit dans les ménages. Ils veulent appuyer leur famille dans la prise en charge de leurs frères et s'y rester à la maison. D'autres s'observent aussi sur les plages de pêche sur le littoral du lac Tanganyika. Un autre lieu public veut que les habitants de Rumongue se dirigent à la recherche du poisson frais chaque matin. Ces enfants ont souvent un âge compris entre 12 ans et 15 ans. La plupart d'entre eux affirment qu'ils renvoient leurs sous dans les familles à la fin du mois. Les enfants de leur génération se trouvent actuellement dans la classe de 6e année fondamentale.
L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère, constate effectivement que cette journée de lutte contre le travail des enfants arrive au moment où il y a beaucoup de défis à relever dans ce domaine au Burundi. C'est notamment la situation des enfants qui sont plongés dans le travail forcé par leur mère qui migre de l'intérieur du pays vers certains centres urbains du pays. Suivez à ce propos Maître Prime Marubukeye, président et représentant légal de ONCT, où est ton frère?
L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère, déplore pertinemment la situation des enfants utilisés dans la mendicité par leurs mères migrantes en provenance sur tout l'intérieur du pays. Ce sont ces mêmes enfants qui sont utilisés dans le travail forcé pour le transport des marchandises, le transport des paniers de fruits et de paniers de manioc et d'arachides, et sur leur tête à longueur des journées, etc., lorsque leurs mères sont des femmes commerçantes ambulantes. Ce sont les enfants également des femmes migrantes qui proviennent de la campagne et qui viennent en ville à la quête du travail, notamment dans la riziculture, dans la construction, etc. Mais qui, une fois le travail fini, ces femmes ne veulent pas retourner à la colline d'origine, mais elles préfèrent rester en ville à la recherche de quoi manger, raison pour laquelle ces femmes migrantes préfèrent utiliser leurs enfants à la fin du travail, à des fins de mendicité, pour avoir de quoi mettre sous la dent. Ce phénomène s'observe surtout dans certains centres urbains du pays, notamment au centre-ville de la capitale économique Bujumbura, dans la capitale politique Gitega, au chef-lieu de la province Ngozi, pour ne citer que ceux-là. À mairie de Bujumbura, par exemple, ce phénomène s'observe notamment aux différents parkings de bus, devant les cybercafés ou les restaurants appelés Tropicana, notamment, et Silhouette, devant la régie des eaux, devant l'Institut français du Burundi, devant le BCB siège, etc.
Ce travail des enfants se fait en violation de l'article 11 du Code du travail burundais qui interdit de faire travailler des enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de 16 ans. Encore une fois, Maître Prime Mbaloukei.
Les enfants ne peuvent pas être employés, selon le même article, à des travaux qui ne sont pas appropriés à leur âge, à leur état ou à leurs conditions, ou qui les empêchent de recevoir l'instruction scolaire. Ce qui précède donc l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONS, où est ton frère, voudrait demander au gouvernement de la République du Burundi ce qui suit. Premièrement, de procéder à la vulgarisation du Code du travail burundais, car il est tout à fait nouveau, parce qu'il date de novembre 2020, et car il reste très méconnu par le public et par la plupart des Burundais, et cette méconnaissance constitue vraiment un grand obstacle à son strict respect par la population burundaise. Deuxièmement, de prendre des mesures draconiennes qui s'imposent pour que ce même code du travail soit respecté dans ses pertinentes dispositions portant interdiction du travail forcé infligé aux enfants au Burundi. Troisièmement, d'intimer l'ordre à toutes les instances judiciaires burundaises, et notamment la police judiciaire, les parquets et les cours et tribunaux du Burundi, de se lever comme un seul homme pour poursuivre à jamais les auteurs, tous les auteurs du travail forcé soumis à des enfants au Burundi, au vu et aussi de tout le monde, afin qu'ils soient vraiment traduits devant la justice et punis ainsi conformément à la loi.
Et puis c'est un mécontentement chez les militaires burundais. C'est à cause d'une nouvelle taxe dite professionnelle qu'ils jugent trop élevée. Cette taxe est intervenue après la revue à la hausse des salaires dernièrement décidée par le président de la République. Les militaires demandent l'exonération de toutes les taxes. Ils disent qu'ils font un travail à haut risque. Plus de détails avec mon fils Niongere.
Les militaires burundais de toutes les catégories s'insurgent contre une taxe dénommée taxe professionnelle qui a été imposée après la revue à la hausse de leur rémunération. Ils indiquent qu'ils ne sont pas contre l'impôt sur le revenu, mais que normalement la taxe professionnelle n'est pas du tout justifiable. Des sources de la radio Nzambagateka Kawe dans l'armée font savoir que certains officiers se seraient déjà désinscrits de la liste de ceux qui paient cette taxe professionnelle.
La taxe professionnelle chez les militaires est une question qui entre plus d'un. Après la revue de salaire des militaires, ils ont été surpris de voir une taxe professionnelle qui leur a été aussitôt été imposée sur leur revenu et avec des sommes importantes d'argent. Aujourd'hui, des officiers sont en train de faire des manœuvres pour échapper à ces taxes en créant des comptes connexes, mais pour les autres, à une moindre question relative à ces taxes, ils vous disent tantôt qu'il n'y a pas de temps ou que les machines sont en panne.
Les mêmes sources racontent que les hommes de rang sur cette taxe professionnelle paient une somme de plus de 40 000 francs burundais par mois et par chacun. Des sous-officiers paient une somme variant entre 50 000 francs et plus de 60 000 francs burundais. Les officiers subalternes, une somme variant entre 70 000 francs et 100 000 francs burundais. Les officiers supérieurs, une somme de plus de 100 000 chacun. Et les officiers généraux, une somme de plus de 150 000 francs burundais. Les militaires demandent au président de la République de faire arrêter cette taxe professionnelle.
Nous demandons au président de la République de suspendre cette taxe car nous donnons la taxe incomparable. Aucune taxe ne peut être comparée au sacrifice que nous donnons pour sécuriser le pays. Parce que quand les uns et les autres demandent personnellement l'exonération à ces taxes, les taxes de l'intérieur ne le seront pas. Si c'est une taxe, qu'elle soit imposée à tout le monde sans effet.
Des sources de la radio Nzambagateka Kawe au sein de l'armée indique que la taxe a été remarquée depuis le salaire du mois de mai et qu'ils n'ont pas eu des éclaircissements du commandement sur cette taxe. À la rédaction de la radio Nzambagateka Kawe, nous avons essayé de contacter par téléphone le colonel Floribert Biyere, qui est porte-parole de l'armée, pour de plus amples éclaircissements sur cette taxe professionnelle, mais sans succès.
Inzamba.
Parlons économie à présent. Tout bureau de change qui ne pourra pas collecter et déclarer un montant de 50 000 $ américains ou l'équivalent chaque semaine sera fermé. C'est l'une des décisions prises ce lundi dans une rencontre dirigée par le Premier ministre Gervais Ndirakobucha à l'intention de tous les intervenants dans le domaine de change monétaire. Moïse Nkurunziza, porte-parole du Premier ministre, dit aussi que les maisons de transfert d'argent à l'international sont suspendues et que toute personne qui sera surprise en possession des devises sans qu'elle ne se prépare pas pour un voyage à l'étranger ou qu'elle ne se dirige pas vers le bureau de change, sera poursuivi. Écoutez-le.
Il a été constaté que ces maisons, plutôt que de faire des échanges, se sont adonnées à la collecte. Et deuxièmement, il a été constaté que les soi-disant responsables de ces maisons de bureau de change ne sont pas réellement des vrais responsables de ces maisons. Il a été alors décidé dans cette réunion, ce qui suit, tout bureau de change dans un délai ne dépassant pas 3 jours doit reconstituer son capital social de 500 millions comme c'est le prescrit de la réglementation à la matière. Et deuxièmement, il a été formellement interdit à tout commerçant de faire des transactions en monnaie étrangère. Seule la monnaie locale, franc-bou, est autorisée pour échanger, pour faire des achats ou faire autre chose en matière commerciale. Troisièmement, il a été recommandé à tout bureau de change qui ne parviendra pas de collecter et déclarer 50 000 d'euros ou de dollars à la Berbe pour une semaine, cette maison sera rayée de la liste. Et il a été demandé également à tout bureau de change qui a été ouvert au nom de plus d'une personne de remettre les documents attestant que cette maison appartient à plus d'une personne, de présenter ces documents aujourd'hui même à la Banque centrale, à la Banque de la République du Burundi. Et les maisons qui faisaient les transferts monétaires sont momentanément suspendues dès aujourd'hui. Également, il a été demandé à tout Burundais, à toute personne qui verra quelqu'un qui se promène avec des devises sans qu'il aille prendre voyage ou qui se dirige vers les bureaux de change, de dénoncer aussitôt aux instances de sécurité.
Dans le même domaine, tous les administratifs du pays devraient respecter la loi et déclarer leurs biens avant de commencer leur fonction. Cela transparaît dans une analyse faite ce lundi par l'expert en économie Faustin Dikoumana et directeur national de l'ONG locale Parsem. Pour lui, la lutte contre la corruption et les malversations économiques devrait être parmi les priorités du gouvernement pour bien stabiliser l'économie burundaise. Écoutez-le.
Normalement, la thésaurisation, le détournement, l'enrichissement illicite, le blanchiment, ce sont des mauvaises pratiques qui ne peuvent pas vraiment favoriser l'objectif de Burundi émergent 2040 et Burundi développement 2060 ne peut pas être atteint avec de telles pratiques. En soi, la thésaurisation a souvent beaucoup de motifs. Il y a d'abord les raisons culturelles. Une culture d'un peuple de thésauriser l'argent, surtout quand l'économie est en majorité informelle, comme au Burundi. On dit 70%, c'est à l'économie informelle. Il y a un faible taux de pénétration bancaire, faible taux d'inclusion financière. Il y a la culture de ne pas vouloir étaler sa richesse, manque de transparence, vouloir faire l'évasion fiscale, cacher de l'argent mal acquis, ou bien aussi le manque de réglementation. Mais tout cela pour conséquence, la réduction de la circulation monétaire à travers les échanges et faciliter l'évasion fiscale. Ce sont des pratiques vraiment nuisibles à l'économie. Mais aussi, il faut s'attaquer à ces mauvaises pratiques aussi dans l'enrichissement et le blanchiment. On ne comprend pas comment actuellement la pratique de déclaration des biens n'est pas vraiment formalisée alors que c'est une exigence constitutionnelle. Même la loi l'exige. De l'administrateur communal, directeur d'entreprise, ministre, directeur général, tous les fonctionnaires qui ont à gérer vraiment des fonds publics consistants, ils sont appelés à déclarer les biens. Même au-delà, le ministre, le vice-président, les bureaux de l'Assemblée, le président, toutes ces personnalités sont soumises à la déclaration des biens. Mais la pratique n'est pas généralisée. Pourquoi il y a Hic, il y a Anguille sous Roche, il faut vraiment casser son mythe. Si on veut assainir la gestion de la chose publique, il faut la transparence partout, la rigueur. Donc cela passera par l'amélioration du cadre légal de lutte contre la corruption, le renforcement du cadre institutionnel, les institutions de contrôle, la Cour des comptes, l'inspection générale de l'État, la justice qui doit réprimer. Sinon, si on continue à laisser les gens sur la coulée douce et ne pas vraiment répondre de leurs actes quand ils se rendent coupables des actes de détournement, Et je crois que quelque part, il y aura un problème, il y aura un lien sous roche dans la lutte contre ces mauvaises pratiques.
L'actualité de ce lundi, c'est aussi la grogne chez les réfugiés burundais vivant au camp de Nyarugusu en République unie de la Tanzanie. C'est à cause de la destruction de leur champ de bananiers. Cette destruction a été faite ce lundi 12 juin 2023 par les chargés de sécurité dans ce camp connu sous le nom des Basungusungu et des policiers. Les réfugiés se lamentent et demandent aux organisations internationales qui se chargent des réfugiés de leur venir en aide. Le point avec Eddie Claude Ninina Hadzwe.
Selon ces réfugiés du camp de Nyarugusu, c'est pour la troisième fois que s'opère l'action d'abattage des champs de bananeraies se trouvant du côté des réfugiés burundais. Cette action est exécutée par les Basungusungu qui sont chargés de la sécurité dans ce camp en compagnie de la police locale et quelques autorités. C'est sur ordre du responsable de ce camp, Siasa Manjenge.
Nous sommes pétrifiés par l'action d'abattage des champs de bananeraies se trouvant dans notre camp. Ils ont sorti encore une fois les machettes. C'est la troisième fois qu'il nous faut cela. Plusieurs Basungusungu, Burundais et Congolais, en compagnie de la police locale et certains des responsables de ce camp qui représentent Siasa Manjenge, ont mené cette opération. Ces bananeraies étaient en floraison, d'autres avaient même porté des régimes de bananes et allaient être bientôt cueillis. Ils les ont tous arrachés à même le sort sans regret. Ils ont commencé par la dixième zone où vivent les réfugiés burundais.
Seront toujours ces réfugiés, ils avaient gardé espoir que ces régimes de bananes allaient compléter leur ration, étant donné qu'elle a été réduite. Aujourd'hui, chaque réfugié se trouvant au camp de Nyarugusu va recevoir 6 kilos de farine de maïs par mois, alors qu'auparavant il recevait 8
kilos.
Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est que nous allons mourir de faim, car ayant de la famine dans notre camp, ils ont même réduit notre ration mensuelle. Sera celui qui recevait par mois 8 kilos de farine de maïs va aujourd'hui obtenir 6 kilos. En plus de cela, ces plantations aidaient aussi les Tanzaniens qui venaient acheter ces régimes de bananes à l'intérieur du camp. Nous qui avons fui la machette au Burundi et voilà qu'elle se manifeste encore une fois ici en Tanzanie, nous savons que celui qui ravage un champ de culture avec la machette, il le fait aussi dans le but de menacer. C'est une manifestation de mépris envers son proche.
Ces réfugiés burundais vivant au camp de Nyarugusu demandent aux organisations internationales qui se chargent des réfugiés de leur venir en aide. La rédaction de la radio Inzamba a contacté par téléphone le responsable du camp des réfugiés de Nyarugusu, Siasa Manjenge, pour qu'il nous éclaire sur ses inquiétudes des réfugiés, mais il n'a pas répondu à notre appel.
La coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés regrette ce comportement de l'administration tanzanienne qui ne vise qu'un retour forcé des réfugiés burundais. Cette organisation dit que la Tanzanie devrait respecter la convention qu'elle a ratifiée. Suivez Vizigir Jean Bosco, il est porte-parole de la CBDH Vicar.
Nous avons appris avec regret qu'au cas de Nyarugusu, les Basungusungu administrés par la police tanzanienne et sous l'ordre du chef de camp de Nyarugusu, Siasa Manjenge, ont coupé avec des machettes les plantations de bananes des réfugiés burundais. C'est une information très malheureuse du fait que ces actes ignobles étaient administrés par le chef de camp de Nyarugusu, Siasa Manjenge, pour mettre en application les propos du représentant des cas de réfugiés, Soudi Mwakibasi, prononcés ces derniers jours, dans lesquels il disait que, au mois de novembre 2023, tous les réfugiés burundais seront rentrés dans leur pays natal. Alors la question qui se pose au CBDHVK est de savoir si la réunion tripartite au sein de laquelle on avait décidé qu'il y aura un retour volontaire et celle-ci que nous sommes en train d'observer. Ces actes ignobles se manifestent pour la troisième fois. dans ces cas de réfugiés. Alors, nous lançons un appel à la Tanzanie de laisser les réfugiés libres et tranquilles et surtout de respecter le statut de Genève de 1951 qu'elle a signé elle-même. Et nous invitons l'OHCR d'approcher la Tanzanie pour faire des solutions qui peuvent sécuriser les réfugiés burundais. Parce que rentrer volontairement est contraire aux tortures, est contraire aux menaces, est contraire à tous ces actes que nous sommes en train d'observer en Tanzanie.
Un mot de sport pour boucler ce journal. La finale de dimanche à Gitega, le championnat interuniversitaire édition 2023 au football. C'est l'Université Espoir d'Afrique qui a remporté la coupe en battant l'Université des Grands Lacs par 2-1. Au basketball, côté garçon, l'Université du Lac Tanganyika a battu l'Université Lumière de Bujumbura par 73-63 points. Et chez les filles, l'Université Lumière de Bujumbura s'est imposée sur l'Université de Ngozi par 47-32. Au volleyball, côté garçon, l'Université Martin Luther King s'est imposée sur l'ISU GI par 3-7-0, tandis que côté féminin, l'Université des Grands Lacs a battu celle du Lac Tanganyika par 3-7-1. Au handball, chez les messieurs, l'Université du Lac Tanganyika a battu l'Université des Grands Lacs par 35-30. Et chez les filles, l'ISCAM a battu l'Université du Burundi par 21-19. Voilà, c'est par cette nouvelle sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.